Vous écoutez, on lit pour vous.
Fais un homme de toi. Trouble en balado sur les thérapies de conversion. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle parue le 29 avril 2024 dans le magazine Fugue. Les thérapies de conversion ne se limitent pas aux États américains ultra-religieux ni à un passé lointain. La torture anti-LGBTQ+ existe encore au Québec, au Canada. En donnant la parole à des survivants, survivantes, à plusieurs experts, expertes, à des adeptes de ces thérapies et même à un jeune Québécois qui choisit chaque jour d'étouffer une part de lui-même, Jocelyn Lebeau propose une série balado aussi éclairante que bouleversante. « Fais un homme de toi », disponible gratuitement sur Audio. À quel point ces thérapies peuvent-elles causer des dommages? La première étude canadienne sur le sujet démontre que 10% des personnes LGBTQ+ en auraient subi, soit près de 100 000 personnes à travers le pays. Les impacts de ces thérapies, qui ont souvent lieu à l'adolescence, sont nombreux. Hausse de l'anxiété, problèmes d'estime de soi, impact sur le parcours scolaire et socio-professionnel et suicide, tant certaines personnes en sont venues à se détester. L'expert Martin Blais dit qu'une thérapie de conversion est une entreprise de destruction massive de l'identité et de la confiance en soi. Historiquement, ces thérapies ont pris plusieurs avenues. Exorcisme, discussion avec des spécialistes, lobotomie, LSD, greffe de testicules d'hommes hétéros, castration, électrochoc, viol correctif, autopunition de reconditionnement. Comment as-tu réagi en découvrant ça? Ça m'a choqué. Dans le milieu médical, jusqu'en 1990, l'homosexualité était un trouble de santé mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé, alors que la transidentité était perçue comme une maladie jusqu'en 2019. Donc, la médecine tentait de répondre à cette vision. C'est long de faire changer la médecine partout sur la planète. Jusqu'à récemment, dans certains bureaux de psychologues reconnus par l'Ordre des psys du Québec, on suggérait subtilement de faire une thérapie de conversion. En ce qui concerne le milieu religieux, il est plutôt question de rencontre avec un prêtre ou un pasteur, de lecture des versets de la Bible, de camps religieux comme dans le film « Boy Erased » où « ça existe encore », même si on sait que ça ne fonctionne pas. Comment expliquer notre ignorance sur ces pratiques? Olivier Ferlat, le chercheur de la grande étude, affirme que c'est un sujet tabou, même au sein de la communauté. C'est seulement en commençant à travailler là-dessus qu'il s'est rendu compte que certaines collègues qu'il côtoyait depuis des années en avaient vécu et que ça se passait chez nous. Le balado met la lumière sur le fait que ça s'est passé ici, que ça peut encore se produire et que c'est criminel au Canada depuis janvier 2022. La loi a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des élus car c'est considéré comme une forme de torture. Seule une douzaine de pays interdit les thérapies de conversion sur la planète. Même si le Québec a expulsé l'Église il y a 6 décennies, la religion occupe-t-elle plus de place qu'on le croit? Je tiens à préciser que le christianisme n'a pas le monopole de l'homophobie et de la transphobie et qu'il existe des églises ouvertes aux personnes LGBTQ+. Il y a moyen de vivre sa foi en étant queer. Je ne veux pas démoniser la religion. Bien sûr, il y a moins de pratiques religieuses qu'à une certaine époque au Québec, mais ça existe encore. Pour certaines personnes, la religion, c'est toute leur vie, leur croyance, une partie de leur éducation, leur cercle social, leur fun de fin de semaine. Si ton entourage te propose une alternative pour te libérer du démon de l'homosexualité, tu as tendance à les écouter, car ces gens partagent les mêmes valeurs que toi. Et lorsque tu réalises que ça ne fonctionne pas et que tu vas moins bien depuis que tu as subi les thérapies de conversion, Si tu choisis de quitter ton groupe religieux, tu te détaches de tous tes cercles, tes amis, ta famille, ta gang. Les thérapies de conversion viennent beaucoup de la volonté de maintenir une forme d'ordre social où les rôles sont très définis. D'où vient ce besoin de rigidité? La société a installé un système très binaire, le bien et le mal, les hommes et les femmes, etc. Il y a plusieurs choses qui sont séparées sans rien au milieu. Mais depuis quelques années, on se rend compte qu'entre les deux, il existe plusieurs choses et ça brasse la cage de certaines personnes. Ça bouleverse certaines visions du monde. Je crois qu'on est dans une période de changement positif, mais on assiste également à une remontée de l'homophobie et de la transphobie. C'est pour ça qu'il faut se faire entendre et donner des exemples de réussite publiquement. Tu fais intervenir un homme pro-thérapie de conversion qui prétend que ça ne crée pas de dommages et que l'homosexualité est une croix. Pourquoi lui offrir une tribune? On trouvait ça important d'avoir différents points de vue. Comme on demande aux gens de comprendre les réalités LGBTQ+, je crois qu'on doit nous aussi tendre l'oreille à ce que certaines personnes pensent. Cela étant dit, c'était la rencontre qui me stressait le plus. Je savais qu'on ne voyait pas l'orientation sexuelle et l'identité de genre de la même façon. Au final, ça a été une discussion entre deux adultes qui essayaient d'entendre le point de vue de l'autre. Selon ses visions, l'homosexualité est un démon dont on peut se débarrasser. Je ne suis pas d'accord. Mais de l'entendre, ça m'a permis de réaliser que certaines personnes voient ça ainsi. J'ai envie de vivre dans une société où tout le monde peut échanger pour faire avancer les choses. Il n'est pas le seul à penser comme ça. Il dit lui-même que s'il y avait des études plus poussées faites par d'autres spécialistes, il serait prêt à se rallier au consensus scientifique. Présentement, il croit qu'il y a un lobby gay et que des gens ne peuvent pas pousser les études aussi loin qu'ils le souhaiteraient. Nous lui avons partagé nos recherches. Je ne crois pas qu'on l'a fait changer d'idée, mais dans cet échange, peut-être qu'on peut espérer faire un peu changer les choses. Les personnes comme lui trouvent souvent des raisons pour justifier que toutes les preuves qu'elles ont tort sont sans fondement. Ça vient entre autres d'une perte de confiance envers les institutions et ça semble justifier tous les comportements et tous les idéaux. Lui-même reconnaît que certains de ses propos peuvent se rapprocher de théories conspirationnistes. Il nous l'a dit. Mais on entend l'échange au complet. Ses propos, nos réponses et nos nuances. Ce segment-là permet de remettre en lumière certains faits sur les thérapies de conversion. C'est important de réagir et de rectifier les faits. Le balado donne aussi la parole à un jeune Québécois qui affirme être passé d'homo à hétéro, qui dit avoir changé pour être ce que Dieu veut qu'il soit et qui s'abandonne chaque matin, dans le sens qu'il met de côté une part de lui-même pour être hétéro. Comment réagissais-tu à ces propos? Au début, ça confronte. C'est une autre façon d'aborder son rapport à la vie. Il a l'air très heureux dans sa relation avec Dieu, sa femme et ses enfants. Il a choisi d'écouter ce que Dieu lui a envoyé comme message. Je respecte ses choix. As-tu hésité avant de diffuser une parole qui pourrait permettre à d'autres personnes de se reconnaître et les encourager à écraser une part d'elles-mêmes? Pas du tout, car on donne aussi la parole à plusieurs spécialistes qui affirment n'avoir jamais rencontré une personne qui a réussi à changer son orientation sexuelle ou son identité de genre à l'aide des thérapies. On est tous libres d'écouter nos désirs ou non. Martin Blais dit espérer que les gens qui prennent cette décision ont un sentiment d'accord avec eux-mêmes chaque jour. Dr. Richard Montoro explique que ce n'est pas nécessairement santé. Après ça, les gens peuvent tirer leurs conclusions. Tout au long du balado, je t'ai senti à fleur de peau. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être moi. À l'adolescence, si j'avais baigné dans un milieu religieux et qu'on m'avait proposé une thérapie de conversion, j'aurais embarqué à 100 000 à l'heure. Ça me faisait tellement chier d'être gay. Donc, je me reconnais dans ces personnes-là. Je les trouve courageuses de nous parler. Elles ont fait preuve de tellement d'authenticité que je me devais d'en faire autant. Info. Suivre le balado « Fais un homme de toi » sur audio. ici.radio-canada.ca/audio/balado, au pluriel. C'était « Fais un homme de toi », troublant balado sur les thérapies de conversion. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 29 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Ça a tout disparu, progressivement, petit à petit. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir. À l'image d'un arbre qui se dégarnit à l'approche de l'hiver, le village de Sainte-Apolline-de-Patton a vu ses commerces pâlir, puis tomber, les uns après les autres. Depuis la disparition du dépanneur en 2020, la petite municipalité nichée au cœur des Appalaches se trouve à 30 minutes de voiture aller-retour de la pinte de lait la plus proche. Un déclin qui met à l'épreuve la conviction des Apollinois et des Apollinoises à l'égard de la devise de leur patelin, espoir dans l'avenir. Le hasard doit rarement mener à Sainte-Apolline-de-Patton. Il faut, pour atteindre ce petit village situé aux confins de la MRC de Montmagny, franchir une portion de la route 216, visiblement dans les mauvaises grâces du ministère des Transports. Chaque carreau qui brinque-balle la voiture sur ce chemin fatigué évoque les cicatrices laissées par de trop nombreuses opérations de rapiessage réalisées sur un patient qui doit attendre depuis longtemps de faire peau neuve. Visiblement, les milliards dépensés par les pouvoirs publics en réfection de bitume ruissellent rarement jusqu'ici. C'est épouvantable, soupire Manon Bernard, propriétaire du seul restaurant au village. Le Répit, qui porte judicieusement son nom après la traversée du tronçon Ravaudé. L'état de la chaussée n'aide en rien les commerces du coin, du moins ce qu'il en reste. Son établissement, d'une quarantaine de places, offre un des derniers lieux de socialisation à des kilomètres à la ronde. La région, pourtant, ne manque pas d'attrait. Un coup d'œil par la vitrine du restaurant laisse voir la majesté de la vallée qui s'étale en contrebas, où quelques touffes de forêt émergent entre champs et collines. La beauté du paysage masque mal le désert commercial et le parfum de déclin qui embaume les environs. Sainte-Apolline ne compte plus aucun commerce de détail, mis à part une modeste friperie et un comptoir artisanal tenu par les vaillantes aînées du village. L'artère marchande la plus proche se trouve désormais à Montmagny, à 50 kilomètres au nord. L'effritement du tissu commercial dans le village chemine en parallèle avec la désertion de sa population. Entre 2011 et 2021, Sainte-Apolline a perdu 18,7% de son monde quand la région de Chaudière-Appalaches, elle, connaissait une croissance de 5,5%. Aujourd'hui, un peu plus de 500 âmes vivent dans ce majestueux décor, presque autant qu'en 1911, quand le village avait 9 ans. Nous avions 6 magasins généraux. Le patelin, pourtant, a déjà connu de meilleurs jours. Il fut un temps où magasins généraux et épiceries se conjuguaient au pluriel à Sainte-Apolline. Jadis, le village avait son hôtel, sa station d'essence, ses bars, ses 2 garages, ses médecins, son école pleine et même ses 3 soirées théâtrales annuelles dans la salle municipale. À l'aube des années 1950, au plus fort du régime du Plessis et des familles où les enfants se comptaient à la dizaine, quelques 1300 paroissiens et paroissiennes communiaient chaque dimanche dans l'église qui se dresse encore aujourd'hui avec panache au cœur de Sainte-Apolline de Patten, malgré un chauffage à refaire et quelques fuites dans la toiture. Le village s'échangeait les nouvelles à la sortie de la messe, puis les fidèles endimanchés faisaient la file aux portes des boutiques jadis nombreuses. Cet âge d'or, aujourd'hui révolu, n'existe plus qu'en souvenir. Dans les locaux du comptoir artisanal, parmi les métiers à tisser, quelques dames du village filent leurs anecdotes pour dessiner la trame du passé. À un moment donné, nous avions 6 magasins généraux, se souvient Suzanne Bernard, 75 ans. Il y avait aussi des lieux de rassemblement. Une salle de danse, 2 bars, du cinéma toutes les fins de dimanche dans la salle municipale. Il y avait vraiment un tissu social tricoté serré. Aujourd'hui, l'effervescence d'autrefois a cédé le pas à l'ennui. Quand je suis arrivé ici en 1998, raconte Madeleine Dumais, 80 ans, il y avait de la vie, des jeunes, il y avait des activités. Ça a tout disparu, progressivement, petit à petit. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien, ça crève les yeux. L'école du village n'accueillera que 18 enfants à la rentrée, 13 au premier cycle du primaire et seulement 5 au deuxième. Nos jeunesses, il n'y en a plus gros, déplore Laurette Lachance, 76 ans, et tout ce qui leur reste, c'est la patinoire. À l'apogée de la paroisse, la voiture était encore une vision rare dans les vallons de la région. Quand on était jeune, à 16 ans, on n'avait pas d'auto, se souvient Thérèse Deschênes, présidente de la fabrique. L'achat local ne relevait pas d'une tendance, mais bien d'une nécessité, surtout quand l'hiver et sa neige décidaient d'ensevelir les chemins jusqu'au printemps. Ça a commencé à se détériorer avec l'avènement des grandes surfaces, souligne Suzanne Bernard. Les magasins ont pris racine à Saint-Paul-de-Montmigny, là où se trouvait déjà la Polyvalente, et Sainte-Apolline a lentement mais sûrement commencé à graviter dans l'orbite de sa voisine, sacrifiant peu à peu son propre pouvoir d'attraction. Quand les centres d'achat ont ouvert, les gens allaient magasiner là-bas en auto, et les épiceries d'ici s'en sont ressenties, poursuit Suzanne. Les gens disaient « Ce n'est pas grave, ça va revenir ». Mais ce n'est jamais revenu. Avant, nous avions le choix de magasiner ici ou ailleurs. Nous l'avons perdu depuis qu'il n'y a plus rien ici. Il faut aller ailleurs. Ça devient un irritant. Manon Bernard, à l'instar des 505 CAM qui résident encore à Sainte-Apolline, doit parcourir près de 50 kilomètres pour atteindre l'offre commerciale plus étoffée de Montmagny. Restauratrice, elle voyage même une fois par mois jusqu'à Lévis pour profiter des aubaines du Costco à une centaine de kilomètres de son resto. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de ne rien trouver au village, explique-t-elle. Parfois, des motoneigistes s'arrêtent chez elle pour demander où trouver du pain et de l'essence. Je dis que c'est à Saint-Paul et je les dépanne. Tu sais, ce n'est pas évident d'aller virer là-bas en skidou. La municipalité a conscience qu'une action s'avère nécessaire pour enrayer sa décroissance. Après une période de mésentente au sein du conseil municipal, Sainte-Apolline de Patten entame des démarches pour attirer un nouveau dépanneur. L'absence d'un commerce de proximité, ça devient de plus en plus irritant pour notre monde et j'en entends de plus en plus parler depuis la fin de la pandémie. Explique le maire Bruno Gagné. Là, on commence à se pencher sur le bobo. Ironiquement, dans ce village où même les journaux ne se rendent pas, la crise du logement a réussi à trouver son chemin. Il n'y a plus de maison et presque plus de terrain à vendre présentement sur notre territoire, poursuit le maire. Depuis la pandémie, beaucoup de gens veulent s'établir en région. La tranquillité et la campagne, les gens veulent retrouver ça. Jusqu'à un certain point, ajoute toutefois le maire. Sans commerce, c'est difficile d'attirer des familles. On est stable présentement, mais on ne peut pas rester stable trop longtemps, sinon on s'en va vers un gros déclin. C'était « Ça a tout disparu progressivement petit à petit », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir.
Le microbiote fécal contre le cancer, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 mai 2024, dans la presse. Des chercheurs du CHUM lancent une étude sur l'utilisation du microbiote fécal pour augmenter l'efficacité de l'immunothérapie anti-cancer. Le traitement du mélanome pourrait être amélioré de 20%. Quelle est l'étude annoncée le mercredi 15 mai 2024? On lance une étude randomisée sur presque 130 patients atteints de mélanome avancé à travers le Canada, répond Ariel Elkrief, oncologue au Centre de recherche du CHUM. Les patients recevront, sous forme de pilules, du microbiote fécal, des bactéries contenues dans les selles, de donneurs en santé. Des résultats préliminaires montrent que le microbiote fécal améliore de 20% l'efficacité de l'immunothérapie anti-cancer chez ces patients. L'immunothérapie oncologique stimule certaines composantes du système immunitaire humain pour lui permettre de mieux lutter contre le cancer. Est-il sûr d'ingérer le microbiote fécal d'une autre personne? Les échantillons seront testés pour une variété de pathogènes, dont celui qui donne la COVID-19, indique la docteure Elkrief. Les pilules de microbiote fécal seront fabriquées à l'Université Western en Ontario, qui fera aussi les tests de pathogènes. On appelle aussi cette stratégie « greffe fécale », même si le patient ingère la pilule. Le microbiote fécal du donneur colonise le tube digestif du patient. Comment le microbiote fécal peut-il agir contre le cancer? On ne sait pas exactement. C'est l'une des questions auxquelles on veut répondre avec cette étude, dit Bertrand Routy, aussi du CHUM. Mais le microbiote a un rôle important dans le système immunitaire qui est la première ligne de défense contre le cancer. En 2023, dans la revue Nature Medicine, les deux chercheurs ont montré que chez 20 patients, la greffe fécale augmentait de 20% l'efficacité de l'immunothérapie pour les mélanomes de stade avancé. Et il y a un mois, à une conférence de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer, AACR, ils ont confirmé ces résultats extraordinaires chez 20 autres patients atteints du mélanome et 20 patients ayant un cancer du poumon. Y a-t-il eu d'autres études sur l'utilisation oncologique du microbiote fécal? Le CHUM est le centre le plus important au monde pour les recherches oncologiques sur le microbiote fécal, selon le Dr Routy. Il y a quelques petites études sur le microbiote fécal en radiothérapie oncologique, notamment pour les diarrhées post-radiothérapie. Il y a aussi des études sur l'utilisation du microbiote fécal pour les greffes allogéniques, greffes de cellules saines, notamment pour la leucémie. Mais le domaine le plus hot est l'immunothérapie. Il y a 3 études similaires en cours en France et aux États-Unis, mais la nôtre est la plus importante. Quand l'étude sera-t-elle terminée? Le recrutement se fera sur 3 ans et les premiers résultats seront connus après ce délai. Les patients seront suivis pendant 2 ans après leur traitement d'immunothérapie avec microbiote fécal. L'étude en cours est notamment financée par la Société canadienne du cancer et la Fondation de la famille Weston. Pourquoi faire cette étude avec le mélanome plutôt qu'avec le cancer du poumon, vu que les résultats sont aussi bons pour ces deux cancers? L'immunothérapie est beaucoup plus utilisée pour le mélanome, explique le Dr Routy. Mais des pourparlers sont en cours pour un essai clinique similaire pour le cancer du poumon. L'immunothérapie a d'abord été approuvée pour le mélanome, puis après pour le cancer du poumon, dit le Dr Routy. Il y a des groupes aux États-Unis qui l'utilisent pour les cancers du rein, ainsi que de la tête et du cou. Quels autres aspects du microbiote fécal doit-on encore élucider? L'étude qui vient d'être lancée permettra de déterminer s'il faut apparier les donneurs et les patients. Pour le moment, on ne comprend pas très bien l'importance de la compatibilité donneur-patient. Dans notre premier article, les résultats étaient meilleurs quand le microbiote du patient devenait comme celui du donneur. Nous voulons identifier quelles bactéries sont importantes dans ce changement. Il n'est pas sûr que la compatibilité soit importante. Peut-être qu'un jour, on rassemblera les microbiotes fécaux des donneurs comme on le fait pour le sang. On pense qu'il faut une compatibilité, mais ça reste à démontrer. Une autre avancée serait de déterminer quel type de microbiote est nécessaire pour un bon succès de l'immunothérapie oncologique. Peut-être qu'à l'avenir, pour les nouveaux diagnostics de cancer, on ne fera pas seulement une biopsie et un PET scan, tomographie par émission de positron, mais aussi un séquençage du microbiote du patient, dit la docteure Elcrief. En savoir plus, source Société canadienne du cancer, 89% taux de survie à 5 ans du mélanome au Canada. 50% taux de survie à 5 ans du mélanome de stade 4 avancé au Canada. C'était Le microbiote fécal contre le cancer, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 mai 2024 dans la presse.